De près, voilà comment vous. Qu'est-ce que ça vous fait aussi de voir votre pays sombrer dans la violence comme ça?
Beaucoup de tristesse, évidemment, mais moi je n'oublierai jamais d'où je viens. C'est ça qui fait ma force, et c'est pour ça que, en fait, j'essaie tout le temps. Je suis le Karam qui vient du Soudan et je suis l'actualité de près et j'essaie d'aider. Par des conseils, par l'argent, etc. Pour que les
par
choses.
Par votre association aussi.
Par mon association,
France,
exactement. Pour aider des personnes réfugiées qui sont ici. Cette belle association qui s'appelle La Voix des Réfugiés, que j'ai créée en 2017 pour aider des personnes réfugiées à s'intégrer en France. Quand je suis arrivé, je parle pas le français. Et je me disais, en fait, j'aimerais contribuer, aider. Et j'ai discuté avec Françoise, qui me disait, moi, je fais ça, je vous aide parce que j'adore, enfin, j'aime, je fais ça pour la France.
Et elle vous a aidé effectivement aussi dans la création de cette association. Merci beaucoup, Karam Hassan. Je rappelle le titre de votre livre, Un rêve plus loin, c'est de cette édition à Albin Michel.
Merci. J'aimerais juste dire vraiment ce que j'ai vécu, c'est une leçon de vie. Et être réfugié, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravi d'être ici en France et j'ai trouvé ma place. Et merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à trouver ma place en France. Merci beaucoup pour cette invitation.
Et merci à vous pour votre témoignage extrêmement touchant.
Merci.
Le MASA, marché des arts du spectacle africain, se tient du 11 au 18 avril à Abidjan sur le thème « Les arts du spectacle, moteur d'intégration économique et sociale en Afrique ». Au programme, spectacle, village de l'innovation, street art, rencontres et colloques internationaux. Le MASA, du 11 au 18 avril à Abidjan. Plus d'informations sur massa.ci.
Ce samedi, retrouvez à 18h41 Jean-François Cadet.
Tout, mais pas Beyrouth, s'écrie sa mère quand Mathieu Diez lui a demandé de partir à l'étranger. Perdu, le voici attaché pour le livre et le débat d'idées à l'ambassade de France au Liban. Et il découvre un pays en crise, rattrapé par la guerre et terriblement attachant. Avec le dessinateur JB, il raconte cette expérience en BD.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h41 sur RFI.
6h30 en temps universel, merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Et c'est l'heure de l'actualité africaine avec vous, Pierre Boudias.
110 ans d'absence et enfin le retour pour le Djidi Ayokoué, le tambour parleur arraché par la France en 1916, a retrouvé le sol ivoirien hier. Il aura désormais quelques semaines pour s'acclimater à sa nouvelle maison avant d'être présenté en grande pompe à la nation. Les démocrates béninois font le deuil de leur leader. Le parti d'opposition a acté à regret la démission de son président fondateur Boni Yayi, absente de la présidentielle d'avril, sans représentant à la Assemblée nationale. L'avenir de la formation s'assombrit encore un peu plus. Nous évoquerons la situation tendue à Bamako où les pénuries de carburant s'accroissent et provoquent coupures d'eau et d'électricité. À suivre également les efforts du Maroc pour rapatrier ces djihadistes détenus en Irak. Et puis des vaches laitières françaises dans les pâturages camerounais. Est-ce que ça fonctionne? La question est au cœur du dossier de ce journal. 3 ans après la fin de l'expérimentation, les résultats sont positifs, même si les difficultés logistiques demeurent. 110 ans d'attente et un immense soulagement hier à Abidjan avec le retour du Djidi Ayokoué à l'aéroport Oufoué-Boigny de la capitale économique ivoirienne. Un tambour parleur dérobé en 1916 par le colon français, restitué il y a 3 semaines après des décennies d'exposition au musée du Quai Branly à Paris. Après une cérémonie sobre ce vendredi, le programme du bien culturel Bidjan s'annonce déjà très riche. Notre correspondante Binta Diagne nous en dit plus.
Le Djidi Ayokoué est conservé dans une caisse volumineuse. Il a été placé dans un espace sécurisé. Il doit d'abord passer par une phase d'acclimatation. C'est une précaution indispensable pour éviter des éventuels dégâts, explique l'archéologue Hélène Quillon-Caboré, qui préside par ailleurs le comité scientifique du retour du tambour parleur. Ce bien va rester sous surveillance par des scientifiques pour maintenir son intégrité culturelle, poursuit cette source. Puis, dans un deuxième temps, une célébration nationale sera organisée dans les semaines à venir, une fête à laquelle les communautés bidjan seront pleinement associées. Ensuite, le Djidi Ayokoué sera exposé au Musée des Civilisations qui a été restauré pour l'occasion. Il y occupera une place centrale. En parallèle, plusieurs projets sont en cours pour vulgariser ce patrimoine. Ainsi, l'association IBHM, Ivoire Black History Month, effectuera une tournée dans 5 grandes villes avec un modèle virtuel de la pièce pour transmettre son histoire aux jeunes. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Le Djidi Ayokwe qui n'est que le premier bien culturel qui pourrait être restitué par la France à la Côte d'Ivoire. 148 pièces sont aujourd'hui réclamées par les autorités ivoiriennes. Pas de parlementaire, pas de candidat à la présidentielle d'avril prochain et désormais un leader par intérim. C'est la situation difficile dans laquelle se trouvent les démocrates au Bénin. À regret, le parti a acté hier la démission de son président fondateur, Boni Yayi. L'ex-chef d'État se retire pour raison de santé et laisse sa formation dans une situation difficile. Alors que les nouveaux mandats ont été portés à 7 ans, l'horizon s'annonce sombre pour la formation d'opposition, au point que la question de sa survie est désormais posée. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Il aura fallu 10 jours au parti avant d'accepter le départ définitif de Boni Yayi. Une délégation avait tenté de le faire revenir sur sa décision, en vain. Les émissaires ont rapporté la nouvelle aux participants de la réunion de coordination nationale, confie le secrétaire à la communication Guy Mitokbe.
L'information selon laquelle le président n'est pas revenu sur sa décision a rendu toute la salle triste. Il y avait beaucoup d'émotions dans la salle et donc le parti a pris acte de cette volonté du président de ne plus revenir sur sa démission.
Une page se tourne, celle d'un homme qui, depuis son départ du pouvoir en 2016, a enchaîné les défaites politiques face à Patrice Talon. Éric Kounété, premier vice-président, prend les rênes du parti pour un intérim de 3 mois. Mais la question la plus urgente reste l'avenir même du parti. Absent de la présidentielle du 12 avril prochain, les démocrates devront patienter 7 ans, le temps d'un septennat, avant de pouvoir à nouveau participer à un scrutin majeur. Comment maintenir le parti vivant dans ces conditions? Réponse de Guy Mitokbe.
Nous sommes évidemment dans la disposition de discuter avec tous les duos. Nous restons ouverts.
Interrogé sur la probable réaction des militants LD, le responsable explique que les nouvelles dispositions des tests obligent le parti à prendre des décisions courageuses. Un conseil national est prévu le 21 mars selon un communiqué du parti. Jean-Luc Aplogan, Cotonou. RFI.
Au Congo-Brazzaville, la présidentielle, c'est demain. Le pays est entré la nuit dernière en silence électoral. Pour son dernier meeting, le sortant Denis Sassou Nguesso s'est posé en rempart contre l'instabilité dans le pays. Face à lui, 6 candidats, une opposition qui a critiqué une campagne verrouillée. Cette présidentielle, nous la suivrons bien sûr sur RFI. Pour la 2e fois en 2 semaines, des portraits de l'ayatollah Khamenei brandis à Abuja. Manifestation de soutien à l'Iran à l'initiative du mouvement islamique du Nigeria. Elle s'est rapidement dispersé en raison de l'important dispositif de sécurité déployé sur place. Interdit dans le pays, ce mouvement chiite avait déjà organisé des rassemblements dans plusieurs villes en hommage au guide suprême iranien tué au premier jour du conflit au Moyen-Orient.
Un défilé à la pompe qui s'allonge et un mécontentement qui gronde à Bamako.
Les pénuries de gasoil se poursuivent depuis 2 semaines dans la capitale malienne, conséquence d'un approvisionnement en hydrocarbures erratique né de l'embargo décrété par les djihadistes du Jnim en septembre. Ces derniers mois, les autorités de transition avaient pourtant réussi à limiter le nombre d'attaques de citernes, instaurant des convois sous escorte militaire. Mais force est de constater que l'approvisionnement reste très fluctuant et insuffisant dans tout le pays. Dans la capitale même, la pénurie est également à l'origine d'importantes coupures d'électricité et d'eau. Et la colère gronde, David Baché.
L'essence reste bien disponible, mais la pénurie de gasoil n'a cessé d'empirer depuis 2 semaines, créant de nouveau d'immenses files d'attente aux stations essence de la capitale. La fourniture d'électricité oscille entre 3 et 7 heures par jour maximum. Certains quartiers en sont privés plus de 24 heures d'affilée. D'importantes coupures d'eau sont également rapportées. Le mécontentement s'exprime désormais de plus en plus ouvertement. Dans les grains, ces groupes de discussion traditionnels et même dans certains médias nationaux. Ces dernières semaines, l'habitude et la crainte de la répression incitaient au silence et à la résignation. Pas de courant et pas d'eau, sous une chaleur suffocante et en plein ramadan, la colère est désormais palpable, résume un Bamakois. Plusieurs interlocuteurs rappellent également les taxes instaurées il y a un an sur les services téléphoniques pour améliorer l'accès à l'énergie. Où sont passés les milliards ponctionnés? C'est ça la souveraineté? Interrogent certains avec colère. Le noir de la nuit, le noir du nouveau Mali, le noir de la propagande, scande un message abondamment relayé sur les réseaux sociaux. Sollicité par RFI, plusieurs Bamakois qui soutiennent le régime en place reconnaissent ces difficultés, mais sans dévier de leur fidélité au régime en place.
David Baché, le gouvernement attribue lui la pénurie de gasoil à des actes de spéculation et de rétention. Il a instauré hier un plafonnement de l'approvisionnement des gros porteurs à 600 litres par camion, mesure mise en place pour une durée de 72 heures. 22h. La lutte contre le terrorisme chez le voisin algérien et 7 djihadistes tués dans une opération menée de jeudi à vendredi. Elle a eu lieu dans la zone de Tébessa, près de la frontière avec la Tunisie. Selon le ministère de la Défense, 2 émirs, Youssef Salah et Haddad Bilal, ont été abattus par l'armée. 3 soldats ont également été tués. Le Maroc veut lui rapatrier ses ressortissants membres de l'État islamique, des djihadistes qui étaient ces dernières années détenus dans les prisons kurdes de Syrie avant d'être transférés vers Bagdad par les forces américaines comme des milliers d'autres ex-combattants de Daesh. Une conséquence de l'offensive menée par Damas sur les oppositions kurdes en Syrie le mois dernier. Une situation qui embarrasse désormais le gouvernement irakien. Il presse les pays concernés de récupérer leurs ressortissants. Rabat prépare donc une opération de rapatriement, mais Sofia Namazian, l'opération s'annonce complexe, notamment pour recenser l'ensemble des combattants et leurs proches.
Les contours du projet de rapatriement marocain ont été imaginés après que les États-Unis ont entamé leur départ progressif de Syrie. Après l'effondrement des forces démocratiques syriennes, les prisonniers retenus en Syrie dans des camps administrés par les FDS ont été transférés par les Américains vers l'Irak en janvier dernier. 5700 hommes adultes, toutes nationalités confondues, selon le CENTCOM, le commandement central américain. Des chiffres confirmés côté irakien, le Centre national pour la coopération judiciaire internationale évoque en février la présence de 710 ressortissants de pays arabes hors Syrie et Irak. Depuis, Bagdad appelle les pays concernés à rapatrier leurs prisonniers et à se manifester pour trouver des solutions afin d'organiser leur départ d'Irak. Mais le transfert vers le Maroc prendra du temps car Rabat cherche également à retrouver les familles de ces prisonniers toujours présentes dans la zone de conflit et dont le nombre est actuellement inconnu. En 2019, le royaume chérifien avait déjà rapatrié 8 combattants marocains du groupe État islamique, puis les ont condamnés à des peines allant de 13 à 18 ans de prison pour terrorisme.
Sofia Namazian, autre détenue dont on vous parle ce matin sur RFI, ceux des prisons en RDC après Human Rights Watch. C'est au tour des Nations Unies de s'émouvoir des conditions de détention dans le pays. Dans un rapport, les experts onusiens alertent sur le sort de 503 prisonniers privés d'accès à un avocat ou à leur famille, alors que le Conseil national de cyberdéfense est pointé du doigt. Kinshasa rejette ces accusations et assure que ces arrestations ont lieu dans le cadre d'enquêtes légalement ouvertes.
Et puis le dossier de ce journal, Pierre, nous emmène sur le plancher des vaches.
Un plancher camerounais pour des vaches françaises. Une idée au cœur du PRODEL, projet de développement de l'élevage mis en œuvre entre 2017 et 2023 au Cameroun. 400 vaches laitières montbéliardes avaient fait le voyage pour tenter de booster la production camerounaise. Des bêtes appréciées pour leur capacité d'adaptation aux conditions climatiques difficiles, mais surtout pour la qualité et la quantité du lait produit. Et quelques années après, force est de constater que l'expérimentation est un succès. C'est Penaï Traoré qui nous l'explique.
L'objectif était de redynamiser l'élevage et la production laitière du pays, car les montbéliardes peuvent donner jusqu'à 25 litres de lait par jour et par vache. Plusieurs éleveurs avaient bénéficié de ce programme. C'est le cas d'Astou Diam Bakari, productrice de lait à Marois, à l'extrême nord du Cameroun. Elle voit sa production s'accroître au fil des ans.
Quand je commençais l'activité en 2011, ma vache la plus performante donnait 7 litres par jour. La quantité était quand même très faible. Donc j'étais obligée d'acheter du lait que les autres éleveurs. Et avec la montbéliarde, elle donne 25 litres par jour. Ça a vraiment augmenté. Maintenant, moi-même, je vends du lait frais. On s'est beaucoup amélioré.
Le Cameroun a enregistré une augmentation de 11% de la production laitière nationale, mais cela reste insuffisant, explique Roland Ziebe, enseignant à l'université de Marois et responsable des formations du PRODEL.
Avec le projet de développement de l'élevage, il y a eu un bond important en matière de production laitière. Il faut avouer que la demande en produits laitiers est d'environ 225 000 tonnes, alors que la production était estimée à environ 166 000 tonnes. Vous constatez qu'il y a un déficit de plus de 50 000 tonnes par an qu'il faut combler. Naturellement, se dire que c'est un objectif progressif.
Le Cameroun produit actuellement 170 000 à 180 000 tonnes de lait par an.
Une production en hausse donc, mais des difficultés qui demeurent malgré tout. Si l'histoire d'amour entre les montbéliardes et les éleveurs camerounais semble en bonne voie, c'est la logistique qui coince aujourd'hui. La collecte du lait auprès des producteurs s'avère notamment encore complexe. C'est ce qu'explique Mamadou Bia. Il est l'un des premiers collecteurs indépendants de l'Amadoua, grand bassin laitier du pays. Il est le président de la coopérative des collecteurs de lait de la commune d'Idole, dans le nord du Cameroun.
Les difficultés, il y en a jusqu'à aujourd'hui, mais on a amorcé plusieurs cas, mais il en reste jusqu'à aujourd'hui. Parce que, de un, quand tu es collecteur, tu as des éleveurs avec qui tu vas travailler. Tu ne connais pas l'origine de leur lait, si le lait est vraiment de qualité. Et tu ne connais pas aussi les différents transformateurs. Tu es obligé de livrer ton lait pendant 3-5 jours ou bien 2 semaines avant qu'on te paye. Toi, tu t'es obligé de prendre tes économies pour aller payer tes producteurs de base qui ont la matière première que tu ne peux pas négliger. Ça, c'était la première difficulté. Le deuxième, c'était aussi les transports. Dû à la distance entre le centre de collecte et les transformateurs basés dans des grands bassins de consommation. Avant, le transport, on le faisait avec le transport en commun. Mais aujourd'hui, nous avons des petites voitures qui sortent du centre de collecte, mais qui ne sont pas toujours adaptées sur la collecte du lait. Et plus de deux encore, nous avons besoin d'avoir une unité de transformation fiable.
Mamou Doubia, premier collecteur indépendant de l'Adamoa. Le dossier d'Afrique Matin était préparé par Penaï Traoré. Penaï, que vous retrouverez dans un jour au village ce samedi à partir de 13h10 temps universel. On y parle aujourd'hui de la place des femmes justement dans le système pastoral au Cameroun.
Merci beaucoup Père Pierre Boudias. On vous retrouve dans une heure. (Rire) 6h44 en temps universel, 9h44 à Antananarive. La capitale de Madagascar, de plus en plus assoiffée. Alors que le réseau est à bout de souffle, l'eau devient de plus en plus rare et de plus en plus chère. C'est un reportage d'Aurélie Couman.
Dans le quartier d'Anzanar, l'eau est une marchandise que l'on traque une partie de la nuit. Pour Obi, mère de famille, le coût de ce marché informel est devenu insupportable.
Depuis 3 ans, il n'y a plus d'eau courante. On peine à s'en procurer. On dort près des bornes fontaines. Si on ne peut pas le faire, on doit payer des porteurs environ 20 centimes d'euros par bidon. J'ai dû cesser de travailler. Mes dépenses pour l'eau équivalaient à mon salaire. Et c'était plus rentable de quitter mon emploi pour chercher l'eau moi-même.
Ce marché est alimenté par des hommes comme Maillère, porteur d'eau. Il est l'un des rouages de cette économie grise qui pallie les insuffisances de la Jirama, la compagnie nationale d'eau et d'électricité.
Le débit est trop faible, c'est coupé, il faut attendre des heures. Je vais chercher l'eau, même pour des foyers qui sont raccordés à la compagnie d'eau et d'électricité, la Jirama, mais où il n'y a pas de pression. Ils doivent recourir à mes services pour avoir de l'eau.
Payer 10 fois le prix officiel pour un bidon d'eau, une réalité que l'État ne peut occulter. On admet à demi-mot que ce système D est devenu la béquille indispensable d'une population assoiffée, confirme Romuald Mara, directeur général au ministère de l'Eau.
La problématique majeure, c'est que les infrastructures en eau dans tout Madagascar sont tous vieux. Les ménages ne peuvent pas surpasser de ces économies informelles afin d'assurer l'approvisionnement pour le moment. C'est à partir du moment où les gens puisent l'eau sur ces points d'eau-là qu'ils revendent après. Et ça crée des prix très variés selon leurs conditions de distance de transport et tout ça.
Une impuissance qui fait les affaires de l'informel. Contactée, la Jirama, compagnie nationale d'eau et d'électricité, indique miser sur une modernisation des infrastructures à l'horizon 2028. En attendant, dans les quartiers de la capitale, la soif reste une taxe invisible, de plus en plus difficile pour les plus précaires. Aurélie Couman, Antananarive, RFI.
Ce samedi 14 mars, c'est la journée internationale des mathématiques. Le calcul est parfait puisque cette date fait référence à la valeur approximative de pi, vous savez, 3,14 environ. Et puis c'est aussi la date de naissance d'ailleurs d'un certain grand physicien nommé Albert Einstein. Bref, c'est l'occasion de rappeler pour le mathématicien congolais Jonathan Boyo Essolé que les mathématiques sont essentielles pour l'avenir scientifique et économique de l'Afrique. Il est votre invité, Christina Okello.
Jonathan Boyo Essolé, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, 14 mars, c'est la journée internationale des mathématiques. Pourquoi cette journée est-elle importante ?
Les mathématiques sont au centre de l'humanité. Les premières traces d'une humanité qui pense et qui laisse des traces, et aussi les nombres premiers. Et donc les mathématiques aujourd'hui sont vraiment au centre de tout ce qui existe, au centre des finances, au centre de la technologie.
Est-ce que vous estimez que les maths occupent une place importante ?
On a vraiment un long chemin encore à faire, mais on voit qu'il y a déjà des initiatives qui sont prises par les Africains eux-mêmes, souvent en collaboration entre différents pays, pour améliorer l'enseignement des mathématiques et la recherche. Et les pays qui sont les plus prolifiques en matière de création de valeur ajoutée, en général, ils ont un investissement certain dans la recherche fondamentale en mathématiques.
Quels sont les pays les plus avancés sur ces questions ?
Je pense que l'Afrique du Sud et le Maroc sont vraiment très avancés dans leur recherche mathématique. Mais il y a aussi d'autres pays qui, en travaillant ensemble, ont pu mettre en place des structures. Donc, par exemple, il y a AIMS, African Institute for Mathematical Science, qui existe en Afrique du Sud, qui existe au Cameroun, au Ghana, au Sénégal, ainsi qu'au Rwanda. Et donc ces pays, en attirant ce genre de centre d'excellence, attirent aussi une excellence africaine qui vient d'autres pays.
Quels sont aujourd'hui les pôles d'excellence qui structurent un peu cette dynamique sur les continents ?
Donc on a African Institute of Mathematical Science qui est dans différents pays africains. Mais ensuite, vous avez des structures dont la qualité est vraiment impressionnante. Donc par exemple, au Bénin, vous avez l'Institut de mathématiques et sciences physiques de Porto Novo. Bientôt, il va y avoir un centre AIMS, par exemple, à Kinshasa.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour renforcer la recherche scientifique en Afrique ?
L'une des choses pour moi qui est les plus importantes, c'est l'accès aux femmes. Parce qu'en fait, si vous regardez juste d'un point de vue purement égoïste, quand on est à la recherche de talents, pourquoi on va se priver de la moitié de sa population, qui est souvent même la meilleure moitié ?
Quels sont les domaines de recherche où travaillent actuellement les mathématiciens africains ?
Certains de nos meilleurs mathématiciens sont des experts dans les mathématiques de l'écologie, des mathématiques des maladies. Par exemple, durant le Covid-19, il y a plusieurs mathématiciens africains qui se sont illustrés en faisant des modèles pour tester la pandémie. Notamment, il y a des exemples au Rwanda et au Sénégal. Mais en général, j'ai remarqué que quand on parle de financement, tout d'un coup, on commence directement à insister sur les applications, ce qui est une bonne chose, mais des fois aussi une mauvaise chose, dans le sens qu'on ne peut pas prévoir l'ampleur d'un certain type de mathématiques. Et donc, le meilleur modèle, c'est toujours de laisser une place aux maths aussi, qui sont dites pures.
Les maths pures, ça veut dire quoi ?
Celles qui ne sont pas liées directement à une application. Par exemple, aujourd'hui, les algorithmes qui sécurisent les transactions bancaires sont basés sur, par exemple, les études de courbes elliptiques qui sont étudiées par des mathématiciens qu'au départ, on pensait ils apporteraient jamais d'application. Donc souvent, les politiciens aimeraient investir dans ceux qui semblent être applicables directement. En fait, c'est un jeu dangereux parce qu'on est en train de limiter l'ampleur de ce qu'on peut faire.
Pourquoi l'Afrique a-t-elle aujourd'hui besoin de mathématiciens ?
L'Afrique a besoin de mathématiciens tout simplement pour pouvoir complètement exploiter son potentiel. On est un continent qui est extrêmement riche en ressources, mais en général, toutes ces ressources sont transformées ailleurs. Si vous regardez la guerre à l'est de la RDC, c'est une guerre de ressources. Un pays qui a toute la technologie pour créer ce qu'on cherche aujourd'hui, pour pouvoir faire les AI et tout ça, vous avez toutes les matières premières là-bas, mais qui préfère les vendre pures pour être transformées par les autres. Le simple fait de pouvoir contrôler ça, vous vendez des transistors, vous vendez des produits finis au lieu de vendre des poussières de minerais. Si on arrive à pouvoir les transformer nous-mêmes, si on peut être ceux qui peuvent penser par exemple au futur de la science et de la recherche, on va finalement atteindre notre potentiel.
Jonathan Boyo est solé. Je vous remercie.
Jonathan Boyo est solé, interrogé par Christina Okello.
RFI, toute l'actualité.
Clotilde Dumay.
Ce samedi 14 mars, donc dans l'actualité, le Hamas exhorte son allié iranien à cesser de bombarder les pays voisins du Golfe. Pour le moment, les frappes se poursuivent. Les États-Unis ont visé l'île de Karg, un important hub pétrolier iranien. L'Iran est complètement vaincu et veut un accord, selon Donald Trump, mais aucune infrastructure n'a été endommagée, selon une agence de presse iranienne. En réponse, Téhéran menace de réduire en cendres les infrastructures énergétiques liées aux États-Unis. Au moins 4 morts en Ukraine dans une attaque russe contre la région de Kiev. Le président ukrainien a été reçu hier à l'Elysée à Paris. Emmanuel Macron a redit qu'il ne fallait en aucun cas revoir la politique de sanctions à l'égard de la Russie malgré la hausse du prix du pétrole. Et puis la Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques en direction de la mer du Japon. C'est ce qu'indique Séoul au moment où les forces armées de Corée du Sud participent à des exercices militaires annuels avec Washington.
RFI Matin.
Et donc, dans ce contexte de guerre au Moyen-Orient, c'est devenu une force pour Doha. Le Made in Qatar, la production locale, elle s'avère plus que jamais importante pour la monarchie, puisque pour le moment, donc, les pays du Golfe sont toujours visés par les frappes iraniennes. Le Qatar a finalement tiré les leçons d'un blocus qui avait été instauré en 2017 par les pays voisins. C'était pour protester à l'époque contre la politique étrangère qatarienne. Résultat, depuis quelques années, Doha encourage le développement de l'agriculture. Culture locale. Reportage d'Amira Souilem dans une ferme au milieu du désert.
Il fait déjà près de 30 degrés ce matin. Parée d'une dige d'acha, cette longue tunique blanche portée dans le golfe, Nasser El-Khalef fait le tour de son exploitation.
Là, c'est de la menthe qu'on fait pousser à même l'eau, sans terre. Les eaux comprennent les nutriments nécessaires aux racines. Au Qatar, on utilise la menthe pour le thé, mais aussi beaucoup dans les salades.
À une heure de Doha, des concombres et des champignons germent dans des salles qui ressemblent à des data centers. À quelques mètres de là, 700 000 tilapias, des poissons d'eau douce, s'ébattent dans des cuves.
Comme dit mon père, si c'est possible au Qatar, c'est possible sur la Lune aussi.
À grand renfort de climatiseurs, ventilateurs et de technologies de pointe, l'impossible surgit en plein désert. Premier émetteur de CO2 par habitant, le Qatar fait passer sa sécurité alimentaire avant les considérations écologiques.
C'est de notre devoir de participer à la sécurité alimentaire du Qatar. Je suis très heureux et très fier d'y participer. Là, on arrive à l'étape du conditionnement. 10 tonnes de légumes sortent d'ici chaque jour. En tout, dans la ferme, on a une production de 5000 tonnes par an. Et nos ambitions, c'est d'arriver à 7000 tonnes de production annuelle.
Désormais autosuffisant en lait, le Qatar espère produire 55% de ses fruits et légumes d'ici 2030. Dans les allées de l'Université du Qatar, nous retrouvons Kamel Asman, un chercheur nigérien.
Par là, il y a les salles de classe et en face, le bureau du président de l'université.
Après le blocus décrété en 2017 par des voisins du Qatar, il a été désigné pour prendre la tête du pôle de recherche agricole de l'établissement.
C'est un secteur hautement stratégique pour le pays. Les autorités nous demandent de fournir des informations qui peuvent les aider à définir leur politique. Les investissements ont atteint de nouveaux paliers. L'université débloque des fonds importants. On reçoit aussi des subventions étatiques. L'intérêt pour ce secteur augmente et les investissements aussi.
Depuis le début des frappes iraniennes sur plusieurs pays du Golfe et la fermeture de son espace aérien, le Qatar, situé juste en face de la République islamique, semble plus que jamais convaincu de son choix. Amira Sulem, de retour de Doha, RFI.
Et vous pouvez retrouver ce reportage sur notre site internet rfi.fr. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour.
Nous parlons avec vous cette semaine de la concentration de la presse avec cette spécificité en France. L'information économique est en grande partie concentrée entre les mêmes mains, ce qui a fait réagir un reporter sans frontières et les syndicats de journalistes.
Oui, et en ce qui concerne la presse, il n'y a plus qu'un seul propriétaire, Bernard Arnault, le patron fondateur de LVMH. Il possède le seul quotidien économique, Les Échos, mais aussi l'Opinion, Investir, l'AGFI. Et depuis le 1er janvier, l'hebdo Challenge, jusque-là contrôlé par Claude Perdriel, qui reconnaissait à ce titre une vision sociale du marché. C'est ce que spécifiait une charte signée avec la rédaction. Mais depuis sa reprise par LVMH, cette charte a été dénoncée et c'est une vision libérale du marché qui est défendue. En outre, il n'est plus question de laisser aux journalistes le droit de valider la nomination de leur directeur de la rédaction. C'est le choix de l'actionnaire qui s'impose et ceux qui ne s'y retrouvent pas sont invités à exercer leur clause de cession. Pour cela, LVMH, qui a repris à l'euro symbolique un challenge déficitaire de plus de 6 millions d'euros, propose aux journalistes de partir avec 2 mois de salaire par année d'ancienneté. De source interne, 30% d'entre eux l'envisagent. Seulement les syndicats de journalistes et RSF ont décidé de porter l'affaire devant le Conseil d'État.
Et il s'appuie pour cela sur le règlement européen sur la liberté des médias.
C'est vrai, ce règlement estime qu'il ne peut pas y avoir cession d'un média s'il n'y a pas d'évaluation préalable de la concentration. Le problème, c'est que ce texte, European Media Freedom Act, est entré en vigueur en août, mais n'a pas été transposé en droit français, et ce, malgré une proposition de loi déposée par la députée écologiste Sophie Taillé-Polian. RSF